Bonsoir. Donc, nous allons commencer cette rencontre à laquelle je tenais beaucoup depuis très longtemps. Et donc, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés, Catherine et Jacques. Donc, nous sommes à la Villa Valmont, ce nouveau lieu dédié aux écritures contemporaines. Et je remercie Marie-Laure de nous accueillir dans le cadre de son festival Littérature en Jardin, dont c'est l'avant-dernière soirée. Hein, donc la prochaine, c'est samedi. Hein, samedi, donc vous avez le programme pour au Château Montaigne. Alors, on va faire une rapide présentation. Donc, Catherine Millet, critique d'art, commissaire d'exposition. Tu diriges la revue Art Presse depuis sa fondation en 1972. Tu as signé de nombreux livres sur l'art contemporain. Et tu as aussi développé une œuvre d'une ampleur singulière, autobiographique. La vie sexuelle de Catherine M, Jour de souffrance, une enfance de rêve et commencement, sur lequel, le dernier livre sur lequel nous reviendrons. Jacques Henry, romancier, essayiste, critique, membre aussi de direction de la revue Art Presse. Tu as aussi publié une trentaine de livres, dont La peinture et le mal, Le roman et le sacré, Politique, Légende de Catherine M, dont nous reparlerons, La balance des blancs, et le dernier livre, La nuit fauve, sur lequel...
Folle.
La nuit folle. Qu'est-ce que j'ai dit? La nuit folle. Et tu as obtenu le prix Médicis Essai en 2016 pour Boxe. Alors, depuis de nombreuses années, vous développez des œuvres à la fois indépendantes, différentes, fortes, des œuvres parfois croisées, mais jamais mêlées, et on y reviendra. Vos livres souvent se répondent par touches délicates, subtiles, sans aucun calcul. Et donc, quand on est lecteur de vos deux œuvres, de vos livres, on a comme ça une sorte de dialogue indirect, non concerté. Et j'y reviendrai aussi sur cette idée un peu du dialogue. Vous formez aussi un couple emblématique par votre mode de vie, mais aussi par ce que vous représentez dans l'art et dans la littérature depuis 50 ans. Donc, votre histoire, alors on pourrait la réduire à deux dates, ce que j'ai fait dans la petite présentation. Rencontre en 1971, mariage en 1991. Mais parlons.
On a pris notre temps.
Voilà. Mais ce que je voudrais d'abord savoir, c'est quels souvenirs vous conservez de votre rencontre? Dans quel contexte? À quelle occasion? Et qu'est-ce qui, vous a attiré l'un vers l'autre? Catherine?
C'est drôle comme question. Ça va, je suis bonne là par rapport au micro. La circonstance, c'était une exposition d'art conceptuel, c'est pour ça aussi que ça me fait rire. C'était une exposition d'art conceptuel à laquelle on peut dire Jacques participait presque, pas comme artiste, mais presque. Bon, à l'époque, je vivais avec Daniel Templon, qui avait créé la galerie quelques années auparavant. On s'intéressait à l'art conceptuel. On peut dire même que, d'une certaine façon, la galerie a importé en France ses artistes, comme ça, ce mouvement. Et un des artistes invités, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, Alain Kirilli, qui était un Français, lui, parce que les autres étaient surtout américains et anglais, avait lu un entretien de Jacques, paru dans la revue Telle Quelle. C'était un entretien... je vais laisser Jacques dire peut-être exactement de quoi il s'agissait.
C'est un entretien avec Philippe Solers, qui était destiné aux lettres françaises que dirigeait Aragon. Mais on aura l'occasion de vous parler.
Voilà, et qui avait dû être censuré.
Et à l'époque, on avait déjà des moi, j'avais bien connu Aragon, bien sûr, mais puisque je travaillais dans le journal et Catherine y travaillait après. Et puis, j'étais membre du Parti communiste, comme Aragon. Simplement, là, les rapports avec lui étaient devenus conflictuels. Et donc, les lettres françaises avaient refusé le texte de mon entretien. Le thème, c'était quel est le rapport entre un parti d'avant-garde politique, ce que le Parti communiste se disait le parti d'avant-garde, et des écrivains d'avant-garde. Bon, voilà, c'était le thème. Et Aragon, c'est pas Aragon, j'ai revu Aragon plus tard, il m'a dit non, c'est pas moi qui ai fait censurer le texte. Évidemment, il a mis ça sur le dos de ses collaborateurs, en me disant d'ailleurs c'est des nuls, bon, ça c'était Aragon. Et en fait, comme le texte a été censuré, il a été publié dans tel quel. Et donc on revient à ce texte que j'avais publié, cet entretien dans tel quel.
Dans tel quel. Et donc Alain Kirilli s'est intéressé et sa participation... Bon, ça peut faire rire aujourd'hui, mais sa participation à cette exposition, c'était un enregistrement de Jacques lisant ce texte. Et Alain, très excité par cette rencontre, tout ça, préparant l'exposition, m'appelle un jour et me dit, écoute, voilà, j'ai rencontré ce type formidable, je suis allée lui demander une lecture, je vais te faire écouter Jacques-Henrique. Et au téléphone, il me fait entendre la voix de Jacques-Henrique. Et j'ai toujours dit, je suis tombée amoureuse de Jacques-Henrique en écoutant sa voix. Et je trouvais très belle. Bon, j'espère que vous êtes d'accord, que vous avez qu'on va partager.
J'étais jeune.
Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur ce terrain improbable pour Jacques. Parce que Jacques, je crois, ne comprenait pas très bien qu'est-ce qu'il faisait dans cette exposition. Voilà.
Et bon, alors, Jacques ?
Moi, c'est plus curieux, moi. Je dis tout de suite que je ne crois pas à la magie, à toutes ces histoires-là. Je suis quand même quelqu'un de très rationnel. Je collaborais donc dans le journal d'Aragon, Les Lettres françaises, depuis longtemps. Et puis, j'ai vu un jour des textes de Catherine sur l'art contemporain. Bon, je ne connaissais pas Catherine, je ne sais pas qui elle était. Je ne connaissais pas son physique. Ce qu'elle écrivait, c'était vraiment pour moi, c'était du sabir. Je ne comprenais rien du tout, ces histoires sur l'art contemporain. D'ailleurs, la preuve. Bon. Et je m'étais dit, ça c'est très étrange, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, en macho peut-être que j'étais, celle-là, je l'aurais. Ah. Voilà. Et je l'ai eue. Voilà. Le mystère. Alors évidemment, on peut dire que le premier contact... Bon, ça a été évidemment dans la galerie Templon, où là, je l'ai rencontré. C'était très bien, j'avais fait le bon choix. Et puis après, on est allé faire une soirée, je crois, chez un ami de l'époque de tel quel, un ami de Solers, qui s'appelait Maurice Roche, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui est mort assez tôt, lui. Et pendant cette soirée, j'avais amené donc Catherine pour lui faire connaître le milieu. Elle connaissait le milieu artistique, lui faire connaître le milieu littéraire d'avant-garde. Et puis dans la soirée, j'ai dû un peu la draguer. Je crois me souvenir que je lui ai caressé un peu les voilà, je crois là, le poignet, là, le poignet. Là. Voilà.
J'ai la phrase que tu écris. Ah bon. Cet effleurement de mon poignet avec le dos de son index.
Voilà. Donc, j'avais pas
tout
oublié.
A commencé par cette carte.
Voilà. Et après, donc, bon, la soirée, on est sorti, on est allé dans la rue. Il était tard. Et là, dans la rue, disons que les choses sexuelles ont commencé à se manifester entre nous. Voilà. Point.
Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ? Parce que vous êtes à la fois très...
C'est incroyable, cette interview, parce que...
je t'ai dit, on va faire un entretien, voilà, que tout le monde attend, parce qu'effectivement, on ne l'a jamais fait. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ? Parce que vous êtes quand même par vos parcours, très différents. J'ai dit, bon, il y a chez Jacques un engagement politique. Bon, il a fait partie aussi, je veux dire, de l'avant-garde, écriture. Et toi, je veux dire, bon, voilà, tu es plutôt du côté de l'écrit. Et puis, je veux dire, effectivement, tu vas tomber dans l'art conceptuel et tu vas être un peu la
critique
d'art.
Oui, mais il y a quelque chose qui... D'ailleurs, je crois que dans Commencement, je raconte l'épisode. Il y a un moment un peu symbole de cette contradiction entre nous. C'est cette exposition en 1972 qui a été surnommée l'exposition Pompidou parce qu'elle avait été voulue par le président de la République. Et pour cette raison-là, beaucoup d'artistes qui étaient invités et qui étaient censés représenter assez largement, ils étaient 70 à peu près, la scène française, et parmi laquelle j'avais énormément d'amis, évidemment. Bon, y en a qui, pour des raisons politiques, ont refusé de participer. Et l'inauguration de cette exposition, elle s'est faite encadrée par les CRS qui avaient été appelés parce qu'il y avait une manifestation qui est de protestation devant le perron du Grand Palais où elle se tenait. Et le symbole donc, que j'évoquais, c'est que moi, j'étais évidemment avec les artistes, avec Daniel Templon, à l'intérieur du Grand Palais dans l'exposition, et que Jacques faisait partie des manifestants qui protestaient en face. Et à l'époque, on avait déjà des rapports. Ça n'empêchait pas, il me semble me souvenir qu'on en discutait entre nous, mais pas d'une manière très insistante. Je sais pas quel souvenir Jacques aura de ça, mais
Moi, le souvenir, c'est que j'étais obligé de me sauver devant les coups de matraque que vous me faisiez envoyer par les CRS.
Non, je n'avais pas de responsabilité dans l'appel des CRS. Non.
Alors, ce qui fait qu'il y avait, il y avait des petits problèmes quand même, mais ça allait très bien entre nous malgré tout. Bon, on peut dire aussi que tous ces engagements dans l'art... pour moi, c'était rien du tout. Je comprenais rien. Cet art conceptuel, pour moi, ça me paraissait une fumisterie.
Enfin, il y avait. Oui, c'était pas le contenu de cette exposition en particulier.
Non. Mais enfin, bon, non, mais ça veut dire que nos liens sur le terrain, disons, intellectuel ou artistique, c'était quelquefois conflictuel. Il est arrivé que j'écrive. On m'avait confié un journal, c'était Marcelin Plenet à l'époque, qui écrivait dans une revue suisse d'art. Et puis, je sais pas, il est parti aux États-Unis, il m'a laissé sa place dans cette revue. Et donc, j'ai fait des comptes rendus d'exposition où j'attaquais les choses que Catherine défendait. Voilà, bon, c'était comme ça. Et moi, elle écrivait ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'écrivais un livre qui s'appelle La peinture et le mal, où je m'intéressais.
Non, c'est plus tard ça.
C'est un peu plus tard. Oui, mais enfin, je veux dire, sur le plan des rapports qu'on pouvait avoir sur ce terrain de l'art, moi, c'était un livre sur le catholicisme et l'art. Oui. La notion, je reprenais le texte de Bataille, mais autrement, le fameux texte sur le mal de Bataille. Donc moi, j'avais pris ça pour la peinture et le mal. Lui, c'était la littérature et le mal. Et donc, c'était une admiration... Bon, moi, j'étais marxiste, j'étais pas catholique, etc. En fin de formation, bien sûr, enfant, j'étais baptisé et tout. Enfin, j'avais pas la foi, mais je m'intéressais beaucoup à la théologie catholique. Enfin, le peu que je pouvais en connaître. Et donc, mon livre était un livre qui était, disons, tout à fait à côté de ce qui pouvait s'écrire dans Art Press. Le seul qui m'avait défendu, je crois, à l'époque, ça c'était un jeu entre nous, c'était, je crois, Philippe Muret, hein, qui avait fait le texte. Voilà.
Bon. Oui, mais en fait, puisque j'ai l'impression que c'est un petit peu le sens de tes questions, Didier, en fait, c'est vrai, c'est drôle, parce qu'en fait, c'est donc cette conversation avec toi qui en fait prendre conscience, c'est que... Il y avait ce lien à la fois amoureux et sexuel déjà entre Jacques et moi. En dépit de ces contradictions dans nos engagements esthétiques et politiques, moi, j'avais pas beaucoup d'opinions très tranchées comme ça. Politiquement, j'étais pas très marquée. Donc, j'étais pas non plus sur les mêmes positions que Jacques pour ça. Et c'était... Si je m'interroge aujourd'hui sur ce lien à Jacques et en même temps le fait qu'on avait ces options très divergentes, je me dis, mais ça n'entamait pas, en fait, ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je restais convaincue de mes choix. Lui aussi. Peut-être qu'on pouvait un peu échanger, mais ça n'allait jamais jusqu'au fait qu'on remette en cause notre relation. Au contraire, je crois que le temps, au fil du temps, Jacques a pu commencer à s'intéresser à des choses qui m'intéressaient. Moi, j'étais peut-être plus sensibilisée aussi à ce qu'il préoccupait. Moi, j'ai vécu ça. Peut-être on pourrait dire que j'étais clivée, j'en sais rien. Non, enfin, en tout cas, c'est comme si le sentiment amoureux était complètement séparé des engagements intellectuels. Voilà, ce n'était pas le même domaine. Et Jacques faisait allusion à son livre sur la peinture et le mal. Je corrigeais un peu parce que, en fait, on vivait déjà ensemble lorsqu'il a travaillé sur ce livre. Et c'était à un moment où moi, j'ai travaillé à un livre sur Yves Klein. Et c'est vrai que, alors là, à l'heure du thé, on prend le thé tous les jours ensemble. Et là, on avait des conversations très contradictoires parce que Jacques, son livre, était une remise en cause de la notion même d'avant-garde. Et moi, j'avais choisi de travailler sur Yves Klein parce que pour moi, il était l'incarnation de l'avant-gardisme, en quelque sorte. Et donc, et alors après, on racontait aux amis ces conversations qu'on avait autour de tasses de thé. Et des fois, ça les étonnait. Mais bon, voilà, c'est sympa. Et après, il n'y avait pas de problème.
Il faut dire aussi qu'il y avait quand même une forme de jeu, hein, quand même, entre nous. C'était oui, un peu oui. Un jeu aussi.
Oui, oui, bien sûr. C'était une manière même, de se confronter.
On ne perdait jamais notre humour.
Non.
Voilà.
Non.
Justement, c'est quoi un couple, une vie à deux pour vous, Jacques ?
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, une vie à deux. On va poser la question au public.
Jusqu'à, disons, 30 ans, moi, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Je pense que si je n'avais pas rencontré Catherine, je pense que je n'aurais pas vécu... Quand je vois les femmes que j'ai connues avant, après, pendant notre aventure, je vois aucune avec qui j'aurais pu vivre. Donc, voilà, je sais pas, c'est un don du ciel, on dira, hein, voilà, qui m'est arrivé. Et puis, je dis pas que ça a été toujours facile, nos vies à deux, mais c'est un couple bizarre. Je vais pas me comparer aux grands couples de l'histoire de la littérature. Hein, enfin, par rapport à ce qu'est le couple, par exemple, Sartre-Simone de Beauvoir, quand on voit leur rapport, comment ça se passait chez eux, ou que ce soit Camus, ou que ce soit, les grands couples, ben Aragon avec Elsa Triolet, par exemple, notre couple n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'il est quand même, je ne parle pas de la qualité de nos œuvres, mais il est quand même d'une originalité totale, je crois. Hein. Quand on voit la vie sexuelle qu'avait Catherine et que moi j'ai vécu ça aussi, enfin j'ai vécu avec elle à ce moment-là, je ne sais pas si beaucoup de maris, parce qu'à un moment on était mariés, c'est très important l'histoire du mariage. On s'est marié, mais pas parce qu'on avait envie de se marier, tout simplement on ne pouvait pas se paxer à l'époque et il y a des problèmes de notaire. Moi j'avais des maisons qui, si on ne s'était pas marié avec un contrat, pardon de parler de ça, mais enfin c'est comme ça, sinon je ne suis pas sûr qu'on se serait marié. Bon, ben, enfin voilà, on s'est marié et à partir du moment où on est marié, même si ce n'est pas un mariage religieux, il y a un truc, il y a une espèce de loi comme ça. C'est-à-dire que les choses que faisait Catherine et que moi j'ai pu faire, peut-être, j'entendais dire que ça ne se fait pas entre un mari et une femme. Bon, voilà. Mais eh ben, on l'a fait, et puis ça, voilà, on est là, ça va très bien.
Alors, justement, et pour toi, Catherine, c'est quoi un couple ?
C'est plus difficile. J'ai l'impression que j'ai plus de difficultés que Jacques pour répondre à cette question. Moi, je pense que, en fait, c'est peut-être que je vais faire rire justement par ma réponse. Je pense que c'est une très grande fidélité à la personne. Et voilà, j'ai une confiance totale en la personne, absolue, voilà. Et en fait, j'ai cette sensation avec Jacques, donc depuis maintenant pas mal de temps, de confiance absolue que je n'aurais pas avec qui que ce soit. Mais en fait, pour moi, tu poses la question de la vie de couple. J'ai jamais été quelqu'un, et peut-être ça se ressent à la lecture de ce que j'ai pu écrire sur ma vie. J'ai jamais été quelqu'un occupé par la question de l'amour. Voilà. Je pense que je l'ai vécu sans m'en préoccuper, sans chercher la définition. Qu'est-ce que l'amour, à quoi je m'engage en disant que j'aime quelqu'un, etc. Et à quoi ça, oui, c'est ça, à quoi ça m'engage dans ma morale, etc. Je me suis jamais posé cette question. Pour moi, j'ai vécu cet amour, je vis cet amour d'une manière presque, enfin assez inconsciente, un peu, j'ai envie de dire presque animale, comme ça, de fidélité. Voilà, en fait, on dit, c'est les animaux qui ont cette fidélité, comme ça. Donc j'ai peut-être ce côté un petit peu animal. Mais quand on a commencé, justement, notamment après la sortie de La Vie sexuelle, à me poser des questions là-dessus, j'avais l'habitude de répondre que pour moi, l'amour, ça a été justement, alors peut-être à un moment donné, après des années de vie commune, la possibilité de me dire, mais en effet, j'aime cet homme vraiment. Voilà. C'était plus une conséquence, ou un constat plus exactement, pas une conséquence, mais un constat après des années de vie commune, donc je reviens à ta question, que voilà, en effet, l'amour, c'était ça. Mais tous les discours sur le coup de foudre, par exemple, des choses comme ça, ça n'a jamais été trop mon truc, même si j'ai raconté, là, il y a 10 minutes, un quart d'heure, que j'étais tombée amoureuse d'une voix comme ça que j'avais entendue. Oui.
Mais parce que quand on vous lit... C'est une véritable histoire d'amour, c'est-à-dire que dans chacun de vos livres, il y a des déclarations d'amour à l'autre. Alors, c'est fait avec toujours beaucoup d'élégance, quand on est lecteur de vos livres, on comprend bien, et on va revenir après sur la vie sexuelle de Catherine M et vos parcours sexuels. Mais vos livres parlent vraiment de cet amour. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui ce parcours ensemble, et qu'est-ce que vous retenez de cette histoire d'amour, Jacques?
Bon, je sais pas, j'ai pas fait de retour là-dessus encore. Non, moi je dirais simplement que ça m'a le meilleur, en fait, c'est que ça m'a fait écrire, moi. J'ai continué à écrire, même si tous mes livres n'étaient pas inspirés par Catherine. Le premier l'était, elle est dans tous les livres.
Oui, elle est présente dans tous les livres.
Elle est dans tous les livres, et puis même quelquefois, elle est là, au centre même d'un livre, comme si notre amour était une ordure, où là, elle est évidemment d'une présence assez scandaleuse d'ailleurs, mais enfin bon. Donc voilà, ça m'a inspiré, ça m'a... Moi, quand je l'ai connu, j'étais quelqu'un qui avait 10 ans de plus. J'avais pas mal lu Bataille, Klossowski, Sade, les grands auteurs comme ça, les grandes références et tout. Et quand j'ai connu Catherine, je savais quelle était sa vie sexuelle. Hein, j'ai pas découvert, je le savais. Et je dirais même peut-être c'est peut-être ça qui m'a attiré aussi de façon bizarre, comme un aimant, comme ça, je me suis dit, mais cette femme, c'est un peu comme des héroïnes des livres que je lis. Voilà. Alors, est-ce que je suis capable, moi, de vivre ce que je vois, ce qui se passe dans des livres et qui me touche et que je trouve formidable, est-ce que je suis capable de le vivre? Voilà. Je savais ce qui m'attendait. Je n'ai pas été surpris de la vie sexuelle, de son livre, etc. D'autant plus que Souvent, elle me le racontait au fur et à mesure, sa vie, pas toujours, elle ne me disait pas tout, mais enfin bon, j'étais quand même averti. Et donc, c'était une sorte de... Je me suis dit, est-ce que je suis capable de vivre ça ? Voilà. Puisque j'aime ces auteurs, est-ce qu'ils ont vécu aussi, je pensais à des biographies comme Bataille, ils ont vécu ça, et est-ce que moi je suis capable de le vivre ? Et voilà. Et donc c'était un peu, voilà, peut-être comme un combat sportif. Voilà. La boxe.
Catherine, alors qu'est-ce que tu retiens de cette histoire d'amour ?
Ce que je retiens est que je continue de vivre quand même, oui. Oui. moi, je dirais que... Quand Jacques m'a connue, moi j'étais, je me laissais porter par le vent. C'est vrai que j'avais des envies, j'avais des envies. Comme là aussi, comme je l'ai raconté, j'avais d'abord envie de vivre dans un milieu qui n'était pas le milieu de cette petite bourgeoisie qui avait été mon milieu d'origine. Donc voilà, j'avais envie de rencontrer des artistes, des écrivains, mais j'étais pas très fixée non plus. J'avais pas choisi de faire des études pour m'aider à m'orienter. Et j'étais comme ça, un peu, dans une certaine, je vais pas dire le mot errance, parce que au contraire, je vivais déjà en couple avec quelqu'un. J'ai eu très très tôt une activité professionnelle, donc je peux pas dire ça. Mais je me laissais porter par les événements. J'étais voilà, comme je sais pas, une feuille dans le vent comme ça. Bon, et je crois que Jacques, ça m'a ancré. Voilà, il m'a ancré dans la vie, dans la conscience de la vie, de la valeur des choses que l'on entreprenait, parce qu'en fait, nous sommes connus, Jacques et moi, au moment même où je créais Art Press. Et d'ailleurs, peut-être que la coïncidence des deux événements, ça explique aussi beaucoup de ce qui est devenu cette revue. Peut-être que la stabilité de cette revue, finalement, est liée aussi à la stabilité de notre relation, comme ça, et à cet ancrage que ça m'a donné, tout en gardant, comme je disais au début, ma liberté intellectuelle, quoi, la faculté de faire des choix indépendants des siens. Voilà.
Alors, justement, on va en venir à la vie sexuelle de Catherine M. en 2001. Donc, c'est un succès inattendu, phénoménal, planétaire, on peut le dire, mais aussi un déchaînement de haine. Jacques, tu dis des haines pauvrement inventives, des injures, des polémiques, une exposition qui est vraiment d'une très, très grande violence. Et j'avais envie de vous poser la question, mais en tant que, à deux, comment avez-vous fait face à ce déchaînement de haine ? Et est-ce que ça a eu des répercussions sur votre couple à un moment donné ? Est-ce que ça...
Non, pas du tout.
Non, au contraire, on s'est beaucoup amusé.
Oui, on s'est amusé. Non, ça a été une période... évidemment, un succès. On ne va pas se plaindre d'un succès. Puis surtout que là, il était tellement énorme que c'était un peu... je ne sais pas comment dire, c'était... C'était presque irréel, en fait. On s'est amusé parce que Jacques avait publié en même temps Légende de Catherine voilà. M, ce qui fait qu'on a fait beaucoup de, comme on dit, promos ensemble, y compris à l'étranger, et que c'était une expérience assez...
C'était formidable. C'était formidable.
Ouais, c'était formidable.
Mais il faut quand même rappeler que... Quand le livre a paru, bon, il y a eu un Pivot, il y a eu toutes ces émissions qui font que ça a démarré les ventes.
On a tout fait, on a fait Pivot, on a fait Ardisson.
Mais la presse, dans sa majorité, a été extrêmement hostile. Il y avait très peu d'articles favorables. Aujourd'hui, elle a des articles partout dans la presse formidables, mais à l'époque, c'était pas ça. Hein. C'était, moi, j'étais traité de PD, tous les noms, Catherine de pute, dans des journaux. Attention, pas forcément dans des journaux de droite. Libération, les textes dans Libération étaient odieux. Ce journal, d'ailleurs, est malheureusement aujourd'hui un peu dans cette tradition-là, enfin, si je peux me permettre, en passant comme ça, et d'être un peu polémique avec les journaux. Mais à l'époque, c'était vraiment... Alors, il y a eu des choses importantes. Il faut voir aussi les individus. Quand Catherine a publié ce livre-là, il y a eu de la jalousie. Cette petite jeune fille qui faisait une revue d'art qui n'était pas connue.
J'étais plus vraiment une jeune fille.
Ouais, t'étais encore une jeune fille. T'étais encore une jeune fille. Enfin, dans mon imagination, t'étais encore une jeune fille. Voilà. Bon, se sont dit, mais moi, je pense par exemple à des gens que j'aimais bien, comme la femme de Solers, Kristeva, qui était très hostile. Bon, alors, il y a eu les amis formidables. Comme Solers, qui aurait pu se dire « Merde, elle a plus de succès que moi, elle est plus traduite que moi dans le monde, etc. » Non, tous ces gens étaient impeccables. Sauf deux, qui étaient des grands amis, vraiment, et qu'on aimait beaucoup, et que Philippe Muret et Annie Lebrun, qu'on a défendus, c'était des amis, on passait des vacances ensemble, etc. etc. Et ces gens ont été odieux. Une espèce en disant qu'elle avait écrit ce livre pour gagner de l'argent, qu'en fait, voilà, c'est... bon. Là, on apprend des choses sur l'espèce humaine hein, dans ces cas-là. Hein, voilà.
Parce que genre, quand on relit le dossier qui a été, je crois que c'est dans tel quel, qui a été publié dans tel quel, et qui a été repris dans la publication en poche, bon, on a du mal à imaginer de la violence que ça a déclenché.
Quoi, oui, mais comme le succès était tel que ça, on se disait. Tiens, allez vous faire voir. Non, c'était, ouais, mais on était très heureux en fait.
Bon, il faut relativiser les choses aussi. Hein. Quand on lit, on a ressorti comme ça, je sais plus, pour un anniversaire peut-être, ce qu'avait dû essuyer comme insulte Simone de Beauvoir. C'était, ça allait aussi assez loin. Hein. Donc, y compris par exemple d'élus de la nation. Hein. Donc. Bon, je crois que voilà, tout livre comme ça qui a l'air un peu scandaleux appelle ce genre de choses, malheureusement. Ouais.
Alors justement,
Mais ça a pour effet de vous renforcer dans ce que vous avez fait, ce que vous voilà, de la défense de ce que vous avez fait, bien sûr. Ça a pas...
Jacques, tu publies quelques années plus tard, Comme si notre amour était une ordure. Alors, qui est un livre magnifique. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai énormément aimé.
Eh ben, c'est formidable parce que c'est un livre qui a été une catastrophe de vente, une catastrophe dans la presse.
En plus, je pense qu'il faut vraiment lire La vie sexuelle de Catherine M. et ton livre après, parce que ça donne quand même à la fois une autre image de vos relations et donc de votre couple. Et ce que je disais tout à l'heure, ça montre bien qu'effectivement, tout ça se bâtit autour d'un amour.
Oui, mais comme si notre amour, puis il y a le mot ordure. C'est une citation de Pascal Quignard, hein, de le titre là, que j'ai pris chez Pascal Quignard, mais qui correspondait bien à l'esprit du livre. Deux mots simplement. Je publiais des livres au Seuil, c'était Denis Roche qui était mon éditeur. Et là, ce livre-là, d'abord, quand je disais tout à l'heure, on ne doit pas faire un livre comme ça, des amis proches, pourtant libérés, etc., me disaient non, ce livre-là, non, on ne doit pas faire ça. Évidemment, je répondais, mais un écrivain, il doit faire ce qu'on ne doit pas faire. Ou alors, ce n'est pas la peine d'écrire. Bon. Donc, je n'avais aucun scrupule à faire ce livre. Le livre, je sentais que Denis Roche avait du mal à le publier. C'était, par hasard, on était assez copains à l'époque avec Christine Angot. C'est elle qui m'avait dit, mais donne le livre au type qui dirigeait Stock.
Jean-Marc Roberts,
qui était un éditeur formidable. Je lui ai donné le livre, là, il l'a lu pendant la nuit, etc. Bon. Alors, ce livre-là, quand même, je ne vais pas dire exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai qu'il est assez scandaleux. Catherine avait donc cette vie sexuelle qu'on a lu dans son livre. Moi, je l'avais entendu d'abord raconter, pas tout, mais elle me racontait. Elle avait la liberté de me raconter ce qu'était sa vie sexuelle quand on se connaissait déjà depuis un bout de temps. Et puis ensuite, il y a eu le livre. Bon, le livre, moi, Catherine, en général, elle et moi, on n'était pas un couple fusionnel sur ce qui est de la littérature. Bon, c'est-à-dire qu'elle, franchement, on peut dire, hein, souvent, tu lisais même pas mes romans.
Oh non, ça, c'est pas vrai.
Moi, bon, quand elle a écrit La vie sexuelle, Je n'ai pas dit, hey, tu vas me montrer tous les soirs là, ce que tu es en train d'écrire. Non. Bon, elle se débrouille, elle fait son bouquin, moi je fais les miens. Bon, je pense que c'est très sain, ça. Bon, mais quand même, je me suis dit, maintenant je lis le livre. Elle m'a raconté, je lis le livre, mais il manque encore quelque chose. C'est-à-dire qu'il manque les images. Parce que entre raconter, lire, et puis voir des images, voir entendre un son, c'est pas la même chose. Donc je me suis dit, de façon un peu provocatrice, et puis m'y forçant un peu, maintenant, moi, je veux voir ce qui se passe dans les images. Et c'est là où il y a ce livre avec une vidéo, voilà, j'en dis pas plus, mais qui fait que ce livre, en effet, a un côté assez scandaleux. D'ailleurs, effectivement, il n'a pas eu le succès moi, je pense qu'il a mérité. Mais c'est bien que tu me dises que c'est ce livre-là, parce que ce livre, qui a été complètement oublié et tout, ressurgit maintenant. Mmh. Et je parlais tout à l'heure, en discutant avec des amis, d'une petite jeune fille de 22 ans, d'origine maghrébine, qui fait un travail... Elle a 22 ans, hein, qui fait un travail sur Guyotat. Avant de partir, sur le pas de la porte, Catherine était présente, elle me dit « Monsieur, j'ai lu des livres de vous, y en a un qui m'a beaucoup plu, etc. » Je me dis « Qu'est-ce qu'elle va me sortir, le dernier ou pas ?» Non, elle me dit, comme si notre amour... Je me dis « Mais ce livre continue à... » Voilà, il vient, il arrive, avec des gens très jeunes. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer des lecteurs, de la littérature. Je trouve que, dans le fond, tout va très bien.
Moi, je pense que... Enfin, si je peux ajouter un mot à ce que vient de dire Jacques, c'est qu'en fait, ce livre... bon, sauf avec Jean-Marc Roberts, qui était très enthousiaste, je me souviens, pour le publier. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir assisté à un déjeuner avec Jacques, avec Jean-Marc, qui s'apprêtait à publier le livre. Et je les écoutais tous les deux, très excités, à l'idée de le faire paraître. Et quand même, moi, je me disais, j'espère qu'il ne se trompe pas et qu'en effet, ce livre sera lu. Bon, il est lu dans le temps, comme ça. Bon. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, ce livre, bon, même si on va pas s'étendre sur le contenu, il a fait peur et il a fait peur aux hommes. Hein. Oui. Voilà, oui, c'était l'analyse que nous avions faite. C'est qu'en fait, cette espèce de défi que Jacques s'est lancé à lui-même, en quelque sorte, en allant voir ses vidéos. Je crois que un lecteur, un homme qui lisait ce livre, si, comme on le fait toujours, s'identifiait plus ou moins au narrateur, se trouvait dans une position qui était vraiment très difficile à assumer. Enfin, bon. Et je crois que c'est ça qui a fait peur, et qui a fait peur, on peut le dire aujourd'hui, alors qu'on lui doit tant à Denis Roche en tant qu'éditeur, qui était donc l'éditeur depuis plusieurs livres de Jacques, qui avait voilà, et Denis Roche était lui-même un écrivain qui mettait beaucoup de sa vie privée et de sa vie avec sa femme, qu'il a photographiait, qu'il la mettait en représentation comme ça, et aussi toujours avec quand même une sexualité assez explicite. Eh bien, je pense que justement parce que Denis se trouvait dans ce genre de préoccupation en tant qu'écrivain, je pense que c'est ça aussi qui a pu lui faire peur. Voilà.
Il faut dire que pour La Vie sexuelle, c'était pareil. Hein. Je crois que évidemment, il y a eu beaucoup de lecteurs, ben, d'ailleurs, dans le...
Alors, attends, il faut dire aussi que Denis Roche, qui était donc l'éditeur de Jacques, a été donc aussi l'éditeur de La Vie sexuelle de Catherine M. Voilà. Et donc, il a quand même... enfin, je lui dois ça.
Oui, oui. Voilà. Mais je pense que le livre que Catherine a écrit, je pense qu'un homme, ne pouvait pas écrire un livre comme ça. Ça ne pouvait être qu'une femme. Alors, on dit que je suis un macho. Moi, je suis très féministe. Je pense que les grands livres comme ça, il n'y avait qu'une femme qui pouvait l'écrire. Et d'ailleurs, il y a eu des livres, bien sûr, si on lit Henri Miller, même Bataille, etc. Mais c'est autre chose. Là, c'est sa vie qu'elle raconte. Eh bien, je pense qu'un homme est incapable de faire ça. Incapable.
Voilà. Non, mais je crois qu'il faut lire. Il faut lire les deux. Je veux dire, c'est effectivement quand il faut lire La Vie sexuelle et ton livre, parce que voilà, je veux dire, il y a quelque chose vraiment qui ça dit beaucoup de vous. Et, ouais. et de votre courage aussi, je veux dire. Bon,
oui, moi,
cette prise de risque. Que,
oui, oui, mais alors justement, ce que j'allais dire, c'est que sur cette question de l'audace, du courage, je pense que le livre de Jacques est beaucoup plus audacieux et je dirais beaucoup plus courageux que le mien, parce que en fait, il a.
Oui, mais je pense qu'il n'aurait pas écrit sans le tien. Il y a quelque chose qui fait que...
Peut-être, ouais. Mais c'est presque de l'ordre... ça ne va pas lui plaire, peut-être, ce que je vais lui dire, mais c'est presque de l'ordre de la performance. C'est-à-dire, j'écris ce livre pour m'éprouver. Ouais. Mm-hmm. Voilà, pour m'éprouver. Moi, je n'ai pas écrit la vie sexuelle pour m'éprouver. Moi, j'ai écrit ça, j'ai raconté l'histoire.
Ouais. Non, je confirme.
Donc, je vois le temps qui passe. Donc, je veux absolument qu'on parle de vos deux livres. Hein. Donc, bon, il y a des questions que je vais sauter. Donc, voilà, vos deux derniers livres. Donc, Commencement, Catherine, et Jacques-Henrique, La nuit folle. Commencement, Catherine, tu évoques ton entrée un peu dans l'âge adulte. Ton besoin d'élargir le réel, la découverte de l'avant-garde. Et donc, ta découverte de la critique d'art.
Oui.
Et donc, quelque part, y a quelque part l'idée, tu parles d'un art fugitif, qui effectivement, où les artistes vont tout fabriquer de leurs mains. Ah. Et quand on lit Commencement, on a vraiment l'impression que... finalement, tu t'es fait toute seule, quoi. Je veux dire, ton parcours, tu l'as toi-même fait de tes mains. Et donc, il y a vraiment une adéquation avec l'art que tu as traversé, qu'on a accompagné.
Non, mais, oui, en fait, je pense que ça a été une époque de néophytes. Ça a été une époque de gens qui ont débarqué. Alors là, je parle pas de moi ou de la littérature, je parle vraiment de l'art. Ça a été un moment où une génération qui n'avait pas eu de formation particulière, qui n'avait pas forcément fait les écoles d'art comme aujourd'hui c'est quasiment obligé de le faire, a commencé à bricoler des choses dans son coin. Et avec une liberté et un sens du jeu, je crois, et donc aussi de l'humour très très grand. Donc, en fait, oui, alors moi aussi, j'ai fait mon petit parcours comme ils ont fait le leur. Bon, les artistes sur lesquels je m'appuie, je ne sais pas, pour les Français, je parle beaucoup de Christian Boltanski, de Jean Le Gag, de Jean-Pierre Reynaud, qui sont des gens qui sont un tout petit peu plus âgés que moi, mais qui étaient ceux qui commençaient à se manifester quand moi-même j'ai commencé à écrire. C'est des gens qui bricolaient, quoi, en fait, et qui se prenaient pas forcément très très au sérieux, qui tentaient un truc. Ils avaient envie d'autre chose que de ce monde dont ils héritaient. Voilà, c'est vraiment une génération. C'est l'après-après-guerre. C'est une génération qui avait, pour les plus âgés d'entre eux, encore souffert des conséquences de la guerre. Par exemple, Jean-Pierre Reynaud, il a perdu son père dans les bombardements. Et puis les plus jeunes, ils ont été confrontés à la guerre d'Algérie. En fait, c'est une génération qui est arrivée et qui ne voulait plus de ce monde-là qu'ils avaient connu pendant leur enfance, leur jeunesse, et qui, du coup, repartait de presque rien. Et en fait, alors pour des raisons qui sont évidemment très très différentes, mais je pense que du côté des Américains, ça a été un peu la même chose. Et souvent, d'ailleurs, je parle aussi pas mal de quelqu'un comme Vito Acconci, par exemple, parce que c'est une œuvre qui au début m'avait beaucoup frappée. Bon, ses performances avant, c'était plutôt un poète. Bon, et puis il a commencé à faire des choses improbables, se dire tiens, qu'est-ce que ça fait de marcher dans les rues de Manhattan tout en lisant un livre et de marcher le temps de lecture de ce livre, par exemple. Bon, donc des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que je suis contente d'avoir écrit ce livre, parce que d'une certaine façon, je voulais rendre hommage à cette innocence.
voilà, à cette innocence de cette génération. Voilà.
Et tout commence par la poésie, puisque le livre commence par cette rencontre avec,
avec des
ces
poètes.
Quatre garçons qui font une revue de poésie, strophes. Les quatre vont travailler, je crois, dans... Il y en a trois qui vont travailler dans, dans le milieu de l'art.
Oui, oui.
Et donc,
faire une carrière dans le monde de l'art. Oui,
oui. Oui. Mm. Bon, les noms sont... Oui, oui. Tu dis les noms qu'à la fin, d'ailleurs. Tu commences à voir leurs prénoms.
Bah oui, parce qu'en fait, au début, pour moi, c'est Jean, c'est Daniel, c'est, voilà, c'est Patrick. Donc, après, c'est après, une fois qu'eux-mêmes, parallèlement à mon parcours, à moi, ont leur propre parcours, que, comme on dit, ils se sont fait un nom. Au début, si j'avais dit d'emblée, je pense que le lecteur ne se serait pas trouvé, enfin, surtout le lecteur qui est amateur d'art, qui connaît un peu le monde de l'art, se serait pas mis dans la même position de lecture s'il savait d'emblée qui étaient Daniel, Jean, l'autre, enfin les deux Daniel d'ailleurs. Enfin voilà, je pense que je voulais laisser ça ouvert comme ça.
Et donc c'est aussi, tu commences aussi par l'écrit, puisque ta première relation avec, disons, une vie intellectuelle commence par cette revue de poésie.
Oui.
Et donc, ça éclaire aussi ton parcours, puisque à un moment donné, je veux dire, bon, aujourd'hui, tu es quand même quelqu'un qui a écrit une œuvre.
Oui, crois que c'est... Oui, pardon.
Et donc, je veux dire, ce lien à l'écriture, et c'est pas peut-être un hasard si tu t'es autant intéressé à l'art conceptuel, ce lien à l'écriture a été présent d'emblée.
Oui, mais je pense que ça, c'est presque naturel. On m'entend encore, oui. J'ai l'impression, oui. C'est presque naturel, étant donné peut-être mon origine sociale, je pense. Je viens pas d'une famille où il y avait beaucoup de culture. Je suis rentrée dans un musée très tard. L'autre jour, j'étais à Villeneuve-d'Ascq, au musée de Villeneuve-d'Ascq, le jour où c'était la visite des enfants. Et je voyais tous ces enfants qui remplissaient tout le musée. Comme ça, je trouvais ça beau. C'était très mignon. Je disais, mais ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ces enfants, je ne sais pas de quelle origine sociale ils sont, mais enfin, bon, il y avait sans doute un grand mélange. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, parce que moi, de mon temps, ça n'existait pas, ce genre de contact très, très tôt avec des œuvres d'art. Et donc, si on avait envie d'autre chose que ce qui était dans l'environnement immédiat, la première chose, c'était les livres, quoi. C'est ce qui reste quand même le plus accessible d'emblée quand on n'a pas d'autres voies d'accès à la culture. Donc, le livre, la lecture, donc l'écriture, etc. Et c'est vrai que mes premières idées pour m'en sortir, si je puis dire, c'était d'écrire des livres. Je savais pas quoi, d'ailleurs. Je voulais écrire des romans. Ça, c'est un peu raté, mais voilà.
Et alors, ce livre se termine sur la mort de ton frère.
Oui.
Et tu as parlé tout à l'heure d'innocence. Moi, je parle plutôt d'insouciance. Est-ce que, quelque part, ce temps de la découverte, ce temps du commencement, à un moment donné, c'est aussi ce basculement dans cette perte de l'innocence, et qu'on rentre dans une époque, dans l'âge adulte. Parce que que tu termines quand même ce
livre.
Oui,
alors, oui.
Ça m'a frappé.
Oui, c'était pas du tout une fin préméditée. Il y a exactement un an, j'étais dans des angoisses terribles parce que j'avais pas, enfin, le livre était programmé pour sortir fin août et j'avais pas encore fini de rendre le manuscrit à mon éditrice. Et je me suis enfermée quelques semaines à la maison, pour terminer. Et c'est vrai que cette fin me préoccupait, comme ça j'avais sans doute prévu d'autres choses. Et puis c'est venu finalement de terminer sur l'accident de mon frère qui lui a fait perdre la vie. Et je dirais, en fait, peut-être que ce qui ressort de ce que je dis à ce moment-là, enfin des choses que ça a fait émerger dans le livre, c'est qu'en tout cas, ça m'a lesté d'une responsabilité. je pense. Voilà. Ça passe par le nom propre.
Oui.
Donc, bon, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. Est-ce que j'allais me marier, changer de nom, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Mais le fait que mon frère meure, ça m'a mis dans cette responsabilité. Je dis, Milet, c'est moi maintenant. Voilà. Et bon, je ne sais pas. Mais c'est des choses aussi peut-être qu'on se fabrique. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je pense que les... On utilise, bien sûr, les faits nous façonnent, certes, mais je crois aussi qu'il nous arrive de les utiliser délibérément pour s'appuyer sur eux et continuer d'avancer, en quelque sorte. Bon. Alors, je trouve à la limite que, à la mort de son frère, son frère unique, se dire bon bah maintenant c'est moi qui m'appelle Millet, c'était presque du volontarisme, voilà, parce qu'il y avait cette souffrance de cette perte qu'il n'était pas question, donc alors certes elle allait me marquer et elle me marque encore, la preuve, mais je crois que d'une manière volontariste je me suis dit voilà, je vais pas m'enfermer dans cette perte, je vais en sortir quelque chose de positif, en fait. Voilà. Bon, alors, évidemment, j'avais 25 ans. On a une force de réaction à 25 ans qu'on n'a peut-être pas plus tard. Mais voilà. Et je pense qu'il y a les deux qui jouent. Bon. Qu'il y a quelque chose quand même aussi de délibéré dans la manière dont les accidents de la vie vous fabriquent. On décide d'être fabriqué par ça, pour une part.
Alors Jacques, donc ce livre, La nuit folle, alors c'est un livre qui est dominé par, même presque hanté, par la figure de Joué Bousquet, poète et écrivain, auteur notamment du Cahier noir, Traduit du silence, Lettres à Poisson d'or et bien d'autres, qui a été fauché par une balle allemande, peut-être tiré d'ailleurs, je l'ai appris dans ton livre, par Max Ernst.
Oui, c'est-à-dire que c'était une bataille à la fin de 1918. Et puis, je crois que c'est... je pense que c'est Dali et Gala qui étaient allés visiter Bousquet dans une petite maison. Il ne s'était pas encore enfermé dans sa chambre à Carcassonne. C'est une petite maison au bord de la mer, à la Franquie, où on va souvent, qui n'est pas loin de là où on a notre maison. Et en parlant comme ça, il y a... Max Ernst qui dit à Joué Bousquet, mais dis donc, toi, t'as été blessé, où est-ce que t'as été blessé? Donc il lui dit, j'ai été blessé tel jour. Ah oui, bon, d'accord, tel jour. Et puis, mais c'était où? À tel endroit. Et c'était à quelle heure la bataille? C'était vers la fin de la journée. Et il comprend, Max Ernst, que la compagnie allemande, le lieutenant allemand en face, ils étaient à une trentaine de mètres, hein, qui commandait les Allemands, c'est lui qui a lancé le tir. Et là, c'est là où Bousquet a été blessé. Il est devenu infirme, impuissant sexuellement. Et après, il s'est enfermé dans cette chambre à Carcassonne jusqu'à sa mort. Voilà, c'est le détail. Ouais. Entre... Alors évidemment, après, comme il collectionnait beaucoup de tableaux, Bousquet, Max Ernst lui en a donné beaucoup parce qu'il sentait tellement... Moi, j'ai même émis l'hypothèse que c'était peut-être lui, Max Ernst, qui avait tiré. C'était possible. Bon, non, ça, on ne sait pas.
Alors, c'est un livre sur la chute, sur les hommes qui tombent, où tu parles à la fois de plusieurs de tes proches, d'ailleurs, tu évoques, donc des hommes qui avaient à se coltiner le mal qui était en eux. Et donc, c'est aussi la nuit noire, folle, sexuelle de ces passagères très spéciales du grand poète, Joué Bousquet, mais aussi de Jacques Lucérin, alors auteur de « Et la lumière fut »,« Le monde commence aujourd'hui », »,« Conversation amoureuse », »,« Résistant », »,« Grand résistant », atteint enfin d'une cécité totale. Et dans ce livre, J'ai l'impression que tu brasses un peu tout ça. Tout ce livre est porté par un souffle, par une écriture acérée, étincelante, et pourtant d'une extrême fluidité, intensément mobilisée par ce que tu nommes pour rendre justice au réel. Et j'ai l'impression que vraiment, ce livre est la convergence de tous tes livres.
Ben, écoute, merci de ce compliment qui me touche. Oui, on pourrait dire ça. Je pense que c'est un de mes meilleurs livres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a eu aucune presse et que j'ai tombé aussi à la poubelle. Et ce pauvre livre. Mais, Dieu merci, il y avait quand même beaucoup d'amis écrivains pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration qui ont lu ce livre. Bon, il faut dire que d'abord, Joël Bousquet est un poète qui est méconnu. Il faisait partie de ce groupe qui a été à un moment proche des surréalistes. Dans sa petite chambre où il a vécu pendant des années enfermé, il avait même clos toutes les fenêtres pour être vraiment dans une espèce de prison, on peut dire. Il y avait quand même tous les gens qui venaient le voir. Il y avait Valérie, il y avait André Gide, il y avait Aragon, il y avait Paulhan. Il a eu un grand succès à une époque. Et aujourd'hui, quand on parle de Joël Bousquet, à mon avis, son œuvre est beaucoup plus importante que celle de la plupart des surréalistes. De Breton, n'en parlons pas. Je dirais simplement, le seul qui tient un peu la route avec Bousquet, c'est Aragon. Pourtant, Dieu sait si j'ai été fâché avec lui. Mais enfin, pour les autres, Tulloir, tout ça, à mon avis, ça ne tient pas la route. Simplement, j'ai eu des rapports avec Bousquet. Je ne l'ai évidemment pas connu puisqu'il est mort en 50. Mais dans ma vie personnelle, j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui m'ont rapproché de Bousquet, de cet homme-là, dont le principal, c'était une amie, qui est devenue une amie. C'était ma prof quand j'étais tout jeune à l'école normale d'instituteurs qui m'avait dragué et qui, on a failli, elle, être virée, puis moi aussi de l'école. Et qui était une lectrice de Bousquet. Donc moi, je lisais plutôt les Bataille, tous ces gens-là. Elle m'a dit non, il faut lire Bousquet. Donc ça a été déjà la première chose. Les autres choses, c'est que Bousquet a passé une grande partie de sa vie enfermé, mais il écrivait, il avait autour de lui cette chose extraordinaire, des très jeunes filles. Pas des enfants, il n'y a pas de pédophilie chez lui, mais des très jeunes filles, alors qu'il était impuissant, ne pouvant pas marcher, etc., qui était autour de lui et à qui il envoyait des lettres. Et il y a à peu près 4 ou 5 livres de lettres magnifiques de Bousquet à ses très jeunes filles. Bon. Et il a écrit aussi un livre qui était Le Cahier Noir, qui était un livre alors de fantasmes, évidemment, puisqu'il a... Il n'avait plus de vie sexuelle. Néanmoins, la sexualité continuait à vivre en lui d'une certaine manière. Et il écrivait donc des lettres d'amour formidables. Et la plus célèbre, c'est les lettres à Poisson d'Or. C'est une femme... Alors, les hasards de la vie fait que j'ai rencontré aussi, ça c'est tous les liens qui me
l'aient abusqué. Est-ce que tu dis au début du livre ?
Cette dame, c'était à la suite d'un colloque sur Artaud à Rodez, une vieille dame est venue vers moi et m'a dit « Bonjour monsieur, c'était très bien ce que vous avez dit sur Artaud, je suis Poisson d'Or ». Et pour moi, quand j'étais bébé, c'était la femme à qui Bousquet envoyait ses magnifiques lettres. Et il faut dire que toutes les lettres, les 4 ou 5 volumes de lettres de Bousquet, pour moi, c'est c'est vraiment une des grandes correspondances amoureuses. On n'en parle jamais, mais vraiment. Et seulement le problème, c'est qu'il était question beaucoup aussi chez Bousquet, et c'est là où mon livre a vraiment fait scandale auprès des spécialistes de Bousquet, c'est que Bousquet, il se droguait. Donc, il y avait La Nuit Folle, c'est une histoire. La seule lettre qu'on a des jeunes filles, on n'a pas les lettres des jeunes filles. On n'a que les lettres de Bousquet. Je ne sais pas ce que les lettres des jeunes filles sont, parce qu'elles répondaient. Mais il y en a une qui a échappé à tout ça, qui donne le nom à mon livre, La Nuit Folle, parce qu'on a retrouvé une lettre d'elle le lendemain d'une nuit où elle avait passé une nuit avec Bousquet. Il avait une petite maison au-dessus de Carcassonne, une maison de famille. Et elle faisait 7 km en se cachant le soir de chez ses parents, en courant 7 km dans la forêt. Et puis le matin, pour ne pas réveiller ses parents, elle repartit vers 5 heures. Et elle passait une nuit avec Bousquet. Et elle a raconté cette nuit. Je ne l'ai pas inventé, elle a raconté cette nuit. Et au cours de cette nuit, d'ailleurs, la lettre est absolument formidable. Bon, Bousquet lui a fait aussi prendre de la drogue. Donc, dans, comme en plus il avait un fantasme de sodomie et tout, mon livre, pour résumer les choses, il est question de très jeunes filles, c'était condamnable par la justice à l'époque, ça le serait encore aujourd'hui. Il y a la drogue, la cocaïne, etc. Et puis il y a la sodomie. Donc voilà, trois trucs, j'ai tout faux. Je vais parler de ça. Je me suis tout foutu les Bousquet à dos, mais tout va très bien. Je trouve que mon livre est pas mal quand même.
Voilà. Bon, on va être obligé de conclure et laisser la place à Thomas Clerc. Bon, mais je vous encourage vraiment à lire Catherine Millet et Commencement et La Nuit folle de Jean Carrick. Et merci.
Merci beaucoup.
Merci Catherine, merci, et merci Jacques.